Bonsoir et merci de suivre Radio Capi ce vendredi 18 avril 2014 pour cette émission Tribune de la Presse. Deux sujets sont au centre de notre débat. Il s'agit de l'incidence de la mort lundi dernier du chef milicien des Mai Mai Simba, Paul Sadala alias Morgan. Comme deuxième sujet, nous parlerons de l'opération de refoulement des Congolais de la RDC de Brazzaville la semaine passée. Kinshasa s'est dit choqué du traitement inhumain infligé à ses ressortissants par la police brazzavilloise. Le vice-ministre des Affaires étrangères dénonce notamment des cas de torture, pillage et viol. Il plaide pour l'arrêt provisoire de cette opération. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de Baudouin Saïd Mbalanga. Il est éditeur du journal La Chopo qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Baudouin Saïd Mbalanga.
Bonsoir confrère, merci pour l'invitation.
Nous sommes également avec Innocent Kabukala. Il est journaliste à Global Télévision, une station de télévision privée émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Innocent Kabukala.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Nous sommes également avec Edouardi Chitenge. Il est journaliste, reporter et directeur de la station de radio-télévision Kasaï Horizon émettant depuis Kananga au Kasaï Occidental. Bonsoir Edouardi Chitenge.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi. Bonsoir également à mes co-débatteurs qui sont avec vous au studio. Je dois dire que c'est un plaisir pour moi d'avoir tout ce monde-là aujourd'hui pour débattre des questions que vous avez.
Bienvenue à tous dans cette émission. L'incidence de la mort du milicien Mai Mai Simba Paul Sadala alias Morgan sur le processus de pacification des territoires jadis contrôlés par sa milice et l'opération du refoulement des Congolais de la RDC de Brazzaville la semaine passée figurent parmi les sujets largement commentés par les journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Alain Hirong.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par l'annonce lundi du décès du chef milicien des Mai Mai Simba, Paul Sadala alias Morgan. Le Phare rapporte que le député provincial Joseph Ndia se dit convaincu que le chef milicien Paul Sadala dit Morgan a été abattu à bout portant par des militaires congolais. L'élu de Mambasa, membre de la majorité présidentielle, rejette la version selon laquelle les hommes de Morgan ont été les premiers à tirer sur des soldats loyalistes. Forum des As cite également les propos du député provincial. Nous comprenons que la mort de Morgan a été planifiée à un certain niveau pour qu'il ne puisse pas dire des vérités à la population congolaise et plus particulièrement à la population de Mambasa. Je pense que sa mort cache beaucoup de vérités et ces gens qui ont tiré à bout portant sur Morgan doivent répondre de leurs actes devant la justice. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, a qualifié de prématuré les accusations du député provincial. Il a argué qu'il y a un principe qui dit que si on tire sur un militaire, il riposte en tirant sur vous. Le palmarès rappelle que le samedi 12 avril, une quarantaine de combattants du groupe Mai Mai Simba, amenés par leur chef Paul Sadala, alias Morgan, étaient attendus à Badengaido, à 300 km sud-ouest de Bunia, d'où ils devaient se rendre afin d'être présentés aux autorités militaires et judiciaires. Le journal ajoute qu'il est important d'insister sur la séparation entre les suites consécutives à cette reddition et le processus judiciaire étant entendu que la justice est et restera indépendante. Parlons à présent de l'expulsion des Congolais et de la RDC de Brazzaville. La Prospérité titre, Maître Célestin Tunda s'explique. Et le quotidien d'enchaîner que les députés n'ont pas tardé pour faire entendre leur voix par rapport à cette opération grâce à la question d'actualité initiée par l'honorable Patrick Muyaya. Sur le même sujet, le Phare note que les députés fustigent les faiblesses de la RDC. Le vice-ministre Célestin Tunda a précisé que l'ambassadeur Christophe Muzungu a adressé une lettre de protestation au gouvernement de la République du Congo le 5 avril dernier. La tempête des tropiques souligne quant à elle expulsion des RD congolais de Brazzaville, les députés recommandent la réciprocité. Le journal cite le député Jean-Claude Mvemba qui a notamment recommandé le renvoi de l'ambassadeur du Congo Brazzaville et le rappel de celui de la RDC. Terminons par l'avenir. Dans ces colonnes, on peut lire enfin que les autorités brazzavilloises ont été accusées de crimes contre l'humanité, alors que la RDC a accueilli sur son sol certains de ses frères voisins. Les élus du peuple ne comprennent pas pourquoi leurs compatriotes sont malmenés à travers les autres pays, alors que les leurs vivent paisiblement sur le sol congolais. Ils ont donc proposé pour les uns d'appliquer la politique de réciprocité.
Baudouin Saïd Mbalanga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Chopo. C'est un journal qui paraît à Kinshasa. L'actualité cette semaine a été aussi marquée par la tenue à Mbandaka du mini-congrès du PPRD. Comment est-ce que vous analysez d'abord cette activité et les résolutions qui y ont découlé?
Je ne suis pas encore dans le secret de Dieu. S'il y a eu réunion, congrès du PPRD à Mbandaka, c'est l'avis d'un parti politique. J'attends pour que j'aie des éléments à partir des animateurs qui étaient en Mbandaka pour que je puisse donner mon point de vue là-dessus.
Innocent Kabukala, je rappelle que vous êtes journaliste à Global Télévision, une télévision privée émettant depuis Kinshasa. L'actualité cette semaine a été aussi marquée par l'adoption à l'Assemblée nationale de la loi sur le code du travail. Un petit commentaire par rapport à cette loi.
Je retiens que dans cette loi, il y a plus les aspects féminins qui priment, par exemple pour les femmes qui aimeraient profiter donc de cette adoption, bien entendu, parce que nous ne sommes qu'au niveau des deux chambres du Parlement, parce que la loi a été envoyée en commission mixte paritaire, donc pour que finalement elle soit adoptée au niveau donc du Parlement. Mais en termes de visée, je crois que pour les femmes, ça c'est une bonne nouvelle. Pour essayer d'éviter, dans la plupart des cas, les inégalités salariales qui existent toujours. Donc c'est peut-être une opportunité pour pouvoir réglementer les choses de ce côté-là, mais aussi de façon générale pour les travailleurs, parce que vous savez, dans ce pays, il y a toujours des salaires qui ne plaisent pas, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires. Donc je crois savoir que par cette loi-là, on pourra régler pas mal des situations donc du point de vue de salaire.
Vous avez toujours la parole. Un petit commentaire sur le mini-congrès du PPRD en Mbandaka.
Le mini-congrès du PPRD en Mbandaka, donc c'est un fait normal. Un parti politique peut organiser des rencontres du genre pour réfléchir sur sa situation en tant que parti politique, et cela dans le strict respect des missions régaliennes qu'on reconnaît à un parti politique, à savoir que lorsque on a le pouvoir, c'est de peaufiner des stratégies pour essayer de le maintenir le plus longtemps possible. Mais ça ne devait pas être une occasion pour donner lieu à beaucoup de spéculations, comme on l'a entendu. Si ces faits s'avéraient vrais, ce ne serait pas intéressant pour qu'un parti politique, parce que vous savez, le PPRD est actuellement au pouvoir. Alors, il a quand même toutes les possibilités pour manœuvrer. On se souvient, par exemple, des modifications au niveau de la Constitution en son temps, lorsque s'est agi de passer du deux tours au tour unique, en fait, en ce qui concerne les élections. Donc, on se souvient de ces situations et on n'aimerait pas y revenir, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet. Et comme l'a dit mon confrère, on aimerait peut-être attendre d'abord les gens qui vont les réactions des gens sur terrain pour pouvoir se prononcer là-dessus.
C'est l'embargo. Juste un petit commentaire sur la loi sur le code du travail.
Le gouvernement de la République tend toujours à résorber le chômage. Lorsqu'on résorbe le chômage, on crée l'emploi, etc., et que cet emploi soit bien rémunéré. Mais j'applaudis, en attendant que ça soit concret sur le terrain.
Édouard Diyo Chitenge, je rappelle que vous êtes journaliste, reporter et directeur de la station de radio-télévision Kasaï Horizon, émettant depuis Kananga au Kasaï Occidental. Quels sont les sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine à Kananga au Kasaï Occidental?
La grande actualité, c'est la visite à Kananga de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Bien ce soir, arrivé à Kananga, lieu de la province du Kasaï Occidental, le mercredi 16 avril 2014, a eu des séances de travail avec plusieurs personnalités, et entre autres le vice-gouverneur de la province du Kasaï Occidental, faisant fonction du gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï Occidental, les commandants 4e région militaire, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, les commandants de l'académie militaire, les commandants de l'école de l'administration, les chefs de projet OIM, entendez, Organisation internationale de migration, avant de chuter au quartier général de la Monusco, où il s'est entretenu avec les représentants des organisations des systèmes des Nations Unies. Les diplomates américains basés à la République démocratique du Congo inscrivent sa visite dans le cadre des prises de contact 6 mois seulement après son accréditation à un RDC. James Swan lâche, il ressort de son entretien avec l'exécutif provincial que l'État occidental est buté à des difficultés financières. il n'a pas manqué d'évoquer l'apport des États-Unis d'Amérique dans la formation des militaires grâce à aux États-Unis d'Amérique. L'Académie militaire de Kananga détient dans un laboratoire de langue anglaise des diplomates américains. Il s'est fait accompagner de son conseiller politique et un attaché militaire de défense et son adjoint, ainsi que le directeur adjoint de la coopération au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants.
Merci.
Il a quitté Kananga, Kasai Occidental, ce jeudi, pour une autre province, pour la même mission.
Merci, Edouard Dilly. Nous abordons directement notre premier thème de ce soir. Vous le savez, le chef milicien Paul Sadala, alias Morgan, a été tué lundi dernier en Ituri. Le gouvernement congolais le regrette. Il aurait souhaité que celui-ci, qu'il qualifiait d'exterminateur des Okapi, soit entendu par la justice sur plusieurs forfaits. Écoutez Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, au micro d'Innocent Olenga.
Nous le regrettons sincèrement parce que dites-vous bien que le gouvernement, aussi bien que les cours et tribunaux, avaient grand intérêt à extraire certaines informations de la part de Paul Sadala alias Morgan sur les réseaux qu'il alimentait en armement, sur les réseaux de complicité internes ou externes. Bref, tout cela, nous devons y renoncer parce que suite aux incidents qui ont été créés par l'intéressé, il a perdu la vie à la suite d'une blessure qui a provoqué une hémorragie fatale et nous le regrettons.
En réaction, en Ituri, la société civile locale est très consternée par la mort de Paul Sadala Morgan. Jean Bosco Lalo, son coordonnateur, estime que la situation va maintenant se compliquer et qu'il ne faut pas espérer dans l'immédiat la reddition d'autres combattants, notamment des collaborateurs de Morgan encore actifs dans la réserve de faune à Okapi, ce qui va éloigner la démilitarisation progressive du territoire de Mombasa que cette société civile a souhaité lorsque le chef milicien Maïmaï Simba s'est rendu au FRDC samedi dernier. Il a été joint au téléphone par Jean-Paul Basila.
Avec la sortie de Morgan, on était convaincu que la paix reviendrait et que la zone serait démilitarisée. Mais curieusement, avec les ennemis de la paix, qu'il faut les dire comme ça, parce que ceux-là qui ont donné la mort à Morgan, ce sont ceux-là qui n'aiment pas que l'Ituri prenne la paix. Avec la mort de Morgan, la situation se complique. Parce que ça ne peut pas encourager les autres collaborateurs de Morgan, dont M. Manou, qui était encore à Brousse, qui voyait Morgan partir et s'emprêtait à les suivre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore espérer leur sortie facile? Je ne pense pas. Donc, je pense que la situation, plutôt maintenant, va se compliquer et que c'est ce que les autres souhaitent aussi bien voir la situation demeurer comme telle parce qu'ils sont bien payés par ce qui se passe à l'ambassade. Et au même moment, les FABC, d'autres voulaient diminuer l'effectif dans la région, ils vont plutôt les augmenter. Voilà, nous sommes dans une situation qui est plutôt contraire par rapport à ce qu'on a parlé.
Innocent Kaboukala, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle du décès de Paul Sadala alias Morgan? Les circonstances de sa mort restent encore floues. On parle même d'assassinat. Comment est-ce que vous analysez cela?
D'abord, les circonstances n'ont pas été élucidées. Parce que pour quelqu'un qui se rend, normalement, d'après les juges militaires, on ne peut pas imaginer un seul instant qu'il puisse, par la suite, opposer une résistance pour tenter de s'échapper. Parce que il a été dit que s'il est arrivé jusque à ce qui a conduit à la mort, c'est qu'il voulait qu'il soit escorté et considéré d'ores et déjà comme général. Mais moi, je ne sais pas bien comprendre ça. Parce que vous êtes rendu librement. Vous avez estimé que maintenant il faut faire la paix et par la suite vous arrivez et puis vous changez d'avis. Je ne pense pas. Alors c'est ce flou là inquiète plus d'un observateur dans notre pays. Donc je crois que on a besoin de donner beaucoup plus d'éclairage, beaucoup plus de lumière sur les circonstances, les vraies circonstances qui ont conduit à cette mort. Déjà avec cette disparition. Vous venez de l'entendre, la paix dans cette partie devient fragile, si pas hypothétique, parce que c'était un élément d'espérance. Les victimes qu'il a pu causer pendant que toutes ces activités-là espéraient, du moins pour celles qui survivent encore, espéraient voir un monsieur arrêté et transférer finalement peut-être un procès pour en savoir un peu plus, de manière à voir clair hein, sur l'ensemble de cette situation-là. Alors, avec cette mort, ça devient très, très compliqué. Mais au niveau du gouvernement, il y a quand même un effort aussi à fournir à ce qu'on... Parce qu'on a suivi, d'un côté, on a dit qu'il était décédé bien avant d'arriver au lieu d'embarquement, et d'autres encore ont dit qu'il était décédé alors qu'il était déjà embarqué. Ce flou, ce déficit en termes de communication ne permet pas. Hein, ne permet pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que dans un avenir, parce qu'on n'a rien dit à ce qui concerne les 42 personnes qui l'accompagnaient. Est-ce que on a pu les acheminer? Est-ce que ces 42 personnes ont pris la fuite? Alors, si elles ont pris la fuite, ça signifie qu'il y a déjà une crainte. Donc, est-ce que les gens qui opèrent comme lui maintenant dans cette partie de la République démocratique du Congo auront-ils encore le courage de se rendre? Est-ce que cela pourra-t-il favoriser la paix tant recherchée dans cette partie? C'est autant de questions qui sont soulevées, mais pour le plus important, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait des garanties au niveau du gouvernement, d'abord en termes de communication. Peut-être cela pourrait avoir un impact sur la possibilité de voir des mouvements des autres qui sont restés à ne pas hésiter à venir pour consolider la paix.
Baudouin Saïd Mbalanga, comment est-ce que d'abord vous avez accueilli la mort de Morgan et comment est-ce que vous analysez les circonstances qui ont concouru à son décès?
Merci beaucoup, confrère, de l'invitation d'aujourd'hui au cours de cette émission des journalistes. Et je dis que je suis de la province orientale. Hein. Donnez-moi une minute pour m'appesantir là-dessus. La province orientale a connu beaucoup de ratés politiques à cause des rébellions à répétition. Calmement, en 64, j'avais à peine 11-12 ans, j'étais témoin, malheureusement à cet âge-là, des cinémas chez nous. On a tué des gens chez nous, franchement. J'étais à Bouta au cours de la vacance scolaire. Et on a tué le chef de cité Moussa Katemba. J'ai toujours l'image de forme. À cet âge-là, jusqu'au jour de 64, vous comprenez? En 64, il y a une rébellion chez nous, rébellion meurtrière. On a tué sans pitié près dans tous les territoires de l'ex-Ozaïre. En 67, il y a eu une rébellion. Des diabos sont venus de 12 dans ce où on a cassé les ponts chez nous, on a tué chez nous, on a pillé chez nous. Donnez-moi le temps, une minute. En 69, des mercenaires venus de quelque part, avec Jean Scram, etc. On a tué chez nous, on a tué à Kisangani. Et si vous avez à Kisangani, devant l'hôtel de ville de Kisangani, il y a ce qu'on appelle le place des martyrs, des baptisés, place de l'espoir. Mais là-bas, on a tué des députés. Les Songolo, les Bondeko et consorts. Voilà le souvenir dans ma tête, hein, comme fils du terroir. En 2000, il y a eu l'hécatombe. Deux armées étrangères, du Rwanda et de l'Ouganda sont venues, ils ont tué les gens pendant 6 jours. Jusqu'au jour où il y a des séquelles. Il y a des mamans malades, des enfants malades, etc. Aujourd'hui, depuis 2001, il y a des gens qui sont toujours habitués à prendre des armes pour tuer leurs concitoyens et prétendre devenir ministre avec une députée. Mon frère, c'en est trop pour la province orientale et ça doit s'arrêter des aventures pareilles. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on peut apprendre la mort d'un frère, n'est-ce pas? Mais ce frère-là qui est décédé, ou les circonstances, je ne sais pas comment il est décédé. Mais quel était le cinéma? Le cinéma, c'était de brûler les okapis. Le cinéma, c'était de tuer, de brûler un couple vivant. Le cinéma, c'était de se polluer, d'aller tout ça à la contre des institutions républicaines. Je dis que le gouvernement de la République en a marre des concitoyens qui prennent des armes tout le temps. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent être des compatriotes alors qu'ils ne le sont pas. Non, je ne suis pas d'accord avec des frères qui prennent les armes, mon cher ami, et qui nous laissent dans des états psychologiques indescriptibles. Je suis contre tout citoyen de ce pays ici qui s'hasarde toujours à monter des coups contre la République. Comment est-ce que la République doit quitter l'état de stationnement pour évoluer vers l'excellence? Quand est-ce que la province orientale, la province du Nord et du Sud qui voulait casser toute la République, doit avoir les minimums pour scolariser les enfants? À cause de la guerre, à cause des agressions, à cause des barbaries. Ça, mon frère, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc je dis, comme le gouvernement a regretté, selon le porte-parole du gouvernement, a regretté la mort, moi, je suis en train de dire que stop à l'aventure. Allons vers l'excellence. Si vous voulez devenir député, passez par la voie de devenir député. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre, je ne sais pas, l'information, la publication du gouvernement du Conseil national. Si vous êtes apte,
déposer la candidature, attendez la réponse, vous comprenez? Alors pourquoi prendre les armes pour tuer et devenir? Non, non, ça je j'écris à haute voix que c'en est trop, ça doit prendre fin.
Merci, Saïd Mbalanga. Edouard Di Chitenge, comment vous avez accueilli l'annonce de la mort de Morgan et comment est-ce que vous analysez la suite de la situation après sa mort, bien sûr?
Voilà, je suis de cœur avec les confrères Baudouin. Je veux que ça s'arrête. Il faut que je dise que c'est notre souhait à nous tous. Nous voulons que ça s'arrête. Les sentiments, ce sont des sentiments de regret, comme le ministre de la Communication et des Médias l'a dit. Nous regrettons tous que cela soit vraiment arrivé, parce que perdre même une vie humaine, ce n'est pas une chose qu'on peut saluer. On n'a pas besoin de perdre des vies humaines. On en a déjà perdu autant. Baudouin l'a dit, il remonte jusqu'en 1964, il évoque les tueries depuis Tiaï, dans cette province, 67-69. Donc on a raison de dire aujourd'hui que ça doit s'arrêter. Mais curieusement, on va rester avec une question de savoir, à Baudouin, même au ministre Baudouin, ça va s'arrêter? Oui, ça va s'arrêter. Comment? C'est ça la question que nous devons nous poser. Regretter pour le ministre, c'est bien bon de regretter. Mais là, je vais saluer la question que vous me posez pour savoir quelle sera la suite. C'est ça la question que nous devons nous poser. Les amis sont déjà revenus sur les circonstances de sa mort, je n'aime pas revenir là-dessus, mais il faut aussi noter que en abattant Morgan, on a abattu deux éléments de notre armée régulière. Là, ça fait deux éléments que nous venons encore de perdre. C'est long, les sources militaires. On connaît dans ces pays que quand les sources militaires avancent un bilan, il faudra encore chercher des sources indépendantes pour savoir si réellement. Je sais que c'est une bonne stratégie d'essayer un peu de ne pas alarmer la situation pour évoquer autant de morts. Il faut peut-être garder le moral de la population pour ne pas la plonger dans le désespoir. Il faut minimiser le bilan. C'est bien bon, mais les sources indépendantes vous donneront encore beaucoup de gens. La situation, la suite, elle est compromise. C'est flou, comme les confrères l'ont dit. Parce que là, est-ce que c'est une action congolaise qui a réussi ou bien le Congo a mordu à l'hameçon du rebelle? Parce que quelle était la mission de l'armée régulière? L'armée régulière, après avoir encerclé, c'est ça l'unique étape qui a réussi dans cette démarche. On réussit à encercler le monsieur, il se voit dans une incapacité, il décide de se rendre. Voilà, c'est un piège. Il tend un piège. Alors, à partir du moment où il se rend, c'est là que ça devient un peu confus. On se dit, est-ce que c'était planifié? Est-ce que c'est lui qui a provoqué? C'est une planification. Là, ça commence à faire peur. Là, on a raison de soupçonner les connexions avec le pouvoir de Kinshasa, comme plus d'un l'a dit. Parce que là, on ne comprend rien. Quelqu'un qu'on a déjà encerclé, je ne sais pas, on était en train de l'escorter tout en lui laissant son arme, tout en laissant à ses éléments leur arme, ils étaient dans quelle position pour qu'ils ouvrent le feu? Là, c'est un peu confus. Et l'on dit que ce sont ceux qui ont ouvert le feu premier. En tout cas, pratiquement, ça ne s'explique pas. Professionnellement, c'est une façon de dire que nos militaires manquent un peu de professionnalisme. Parce que ce sont ceux qui étaient en train d'escorter. Comment est-ce que les rebelles ont repris leurs armes? Alors, voyez-vous, donc il y a lieu, à partir de ce moment-là, de soupçonner des connexions avec un pouvoir étranger ou de Kinshasa qui est en train de vouloir brouiller les pistes. C'est ça la crainte. Donc, les pistes sont brouillées. Samuel, ça il faut le dire, la situation est compromise. On ne sait pas à quoi est-ce qu'on va aboutir, parce que là, les éléments de Maïmaï Simba sont dispersés. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va encore arriver. Donc, avec beaucoup de regrets, on va voir un peu au cours de cette émission les idées que nous allons avancer pour sauver la situation.
Merci, Edouard. Dit Innocent Kabuka, là, est-ce que la disparition de Morgan peut-elle avoir une incidence aujourd'hui sur le processus de pacification des territoires jadis contrôlés par sa milice?
Je pense que là, c'est clair, hein? Parce qu'on l'a dit, ces gens, on a tué leur chef. Si vous s'en tenir à ce flou qui est entretenu, dans l'hypothèse que c'est plutôt un piège, ça a été commandité à partir de Kinshasa pour éliminer ce chef-là, donc ça signifie qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de confiance, parce qu'à partir du moment qu'il n'y a pas de confiance, c'est que ces gens-là sont rentrés dans la forêt. Et par conséquent, le processus de paix est quelque peu estompé. Il va plus se poursuivre. Il faudrait attendre encore d'autres garanties. Mais pour combien de temps encore? Donc, le gouvernement a intérêt. C'est pour cela que j'insistais sur le fait que le gouvernement devait d'abord mener une enquête sérieuse pour nous donner des éléments fiables à partir duquel nous pouvons trouver peut-être d'autres propositions à faire pour pouvoir espérer une suite, pourquoi pas une bonne fin de ce processus de paix que nous souhaitons tous donc dans ce pays.
Baudouin Sehile Mbalang, Innocent Kaboukala, a essayé de relever quelques éléments. Quelles peuvent être les conséquences de la mort de Morgan sur le processus de pacification de cette partie en fait de la province orientale qui était sous contrôle de sa milice?
Bon, en croire le gouvernement de la République, il y a une opération qui continue à stopper l'hémorragie dans les grands Kivu. Vous comprenez que depuis l'annoncement de M23, nos forces armées continuent à avancer, à nettoyer les adeptes Nalou, etc. Je crois qu'au niveau de Mambasa, dans l'Ituri, en province orientale, les forces armées feront en sorte que la démarche qu'ils ont commencée, parce qu'il y a quelque part un début, ils ont monté une stratégie pour aller encercler celui qui est décédé, afin de les anéantir et de les ramener à la raison. Alors, si tel est le cas, ils doivent peaufiner d'autres stratégies pour qu'il n'y ait pas de débordement sur le terrain. Vous comprenez? La population
en a... Mais oui. Aujourd'hui, en fait, les différents seigneurs de guerre qui sont dans cette partie du territoire doivent perdre confiance. Ceux qui avaient peut-être l'intention de se rendre doivent perdre confiance et se méfier et peut-être se replier, peut-être voire même reprendre des armes. Est-ce qu'on ne peut pas craindre un tel scénario?
Mais, chers confrères, ces seigneurs de guerre, ce sont des Congolais ou ce sont des étrangers? Ces seigneurs de guerre, quelle est la raison profonde qu'ils ont dans leur fort intérieur pour prétendre prendre les armes et attaquer la République? Ces seigneurs de guerre, ils font de la rébellion pour quelle finalité? Ces seigneurs de guerre sont là-bas en brousse. Pourquoi faire? Pourquoi on doit être seigneur de guerre à tout moment? Chers confrères, je ne suis pas d'accord avec tout ce monde-là. S'ils sont compatriotes, s'ils sont Congolais, avec la disparition de leurs frères, ils n'ont qu'à déposer les armes cette fois-là et voir ce qui va advenir. Vous comprenez bien ça, mon frère? Le seigneur de guerre à gauche, à droite, pour quelle finalité, après tout? On ne devient pas ministre en prenant des armes. On ne devient pas député en prenant des armes. On ne devient pas sénateur en prenant... On devient député par les élections. On devient ministre à travers un parti politique et en accès au pouvoir. Pourquoi toujours les armes? C'est ce qui est mauvais.
Juste un mot, Innocent Kaboukala, avant de donner la parole à Edouard Di.
Je ne voudrais pas cautionner, chers confrères, des actes de barbarie auxquels on assiste dans la plupart des cas, surtout dans la partie est. Je veux dire ceci, au niveau interne de notre pays, nous avons des problèmes. À partir du moment que nous n'avons pas des solutions en interne, on ne doit pas s'étonner que cela ait des répercussions sur des actions du genre, donc cette rébellion.
Je ne voudrais pas
vraiment pas cautionner ça, mais il faut trouver des ramifications à ce niveau ici.
Merci.
C'est une réalité. Il ne faut pas vraiment se voiler la face. Donc c'est une réalité. Nous avons des problèmes en interne qui expliquent ce que nous avons au niveau extérieur, non pas au niveau des différentes rébellions.
Merci, Nonson. Edouard a dit quelles leçons pouvons-nous tirer de la mort de Morgan et que faut-il pour mieux pacifier cette partie du territoire national après la mort de ce dernier?
Ce que dit Baudouin, je sais que les esprits négatifs vont toujours continuer à exister. Parce que j'évoque un passage biblique qui dit « Tant que la terre subsistera, la semaille et la moisson ne cesseront jamais. » Donc nous sommes contraints de vivre avec le jour et la nuit. Nous sommes contraints de vivre avec des esprits méchants et les bons. Donc il ne suffit pas de dire que ça doit s'arrêter. Ils doivent laisser les armes, ils vont laisser. Parce que c'est leur vie. Ce sont des esprits négatifs. La solution, c'est quoi? La solution, c'est ceux qui ont un esprit vie positive. Et qui sont ceux-là, en commençant par notre gouvernement? Vous avez vu vous-même comment on a brouillé les pistes. Parce qu'aujourd'hui, avec la mort de Morgan, on ne sait pas avoir de vraies informations sur sa situation. Qu'est-ce qu'il est revendiqué? Et de surcroît, pire encore, on perd tous les éléments qui étaient arrêtés avec lui. Je me demande quelle est l'information qu'on va avoir. Je ne sais pas comment on peut évaluer cette action militaire au jour d'aujourd'hui, à quoi ça nous a servi. Donc les gens qui ont les armes, que ce soit pour avoir un ministère, que ce soit pour devenir général, mais ils ne vont pas laisser parce qu'ils ont un esprit négatif. C'est nous, c'est l'État congolais qui doit les contraindre à laisser, en mettant sur pied
Merci.
Des bonnes stratégies militaires, en commençant par former les militaires. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec les programmes de la réforme des services de sécurité, parce que ce que nos militaires viennent de faire, je peux me permettre de le dire, c'est une grosse erreur. Comment on peut mettre la main sur un ennemi d'une nation et vous lui donnez encore l'occasion de se donner la mort? Parce que si c'est vrai que c'est lui qui a provoqué, donc il a excité l'armée régulière et l'armée régulière a réagi. Donc sans stratégie, si ça vient de l'armée régulière, c'est là que nous disons, est-ce qu'il y a des connexions au niveau étranger? Est-ce qu'il y a des connexions au niveau du gouvernement central?
Merci.
Est-ce qu'il y a des connexions à quel niveau qui fait que ça... Alors, pour donner les pistes de solution, moi je me dis que les esprits négatifs seront toujours là. Je considère notre État congolais, nous qui sommes dans la situation normale, qui réfléchissons, qui avons tous les sens comme ayant un esprit positif. Donc c'est à notre niveau de mener les actions et au niveau du gouvernement c'est de multiplier les stratégies militaires parce que les rebelles ne cesseront jamais. Comme on avait réussi Merci. À l'encercler, il était question de bien l'encadrer. Alors aussi longtemps qu'on ne saura pas amener les rebelles qu'on a maîtrisés, nous serons en droit de soupçonner des connexions tant au niveau national qu'au niveau international.
Merci Edouard Dillet. Nous passons directement à notre deuxième thème de ce soir. Mercredi dernier, une centaine de bagagistes congolais résidant à Brazzaville ont été refoulés à partir du beach. Ils ont regagné Kinshasa en catastrophe à bord du bateau Donatra Ikonda, laissant leurs dépendants. Bon nombre d'entre eux disent avoir des documents délivrés par les autorités brazzavilloises qui ne méritent pas l'expulsion. Conséquence, plusieurs lourdes marchandises embarquées par le bateau ont été retournées à Kinshasa sans être déchargées. Les détails avec Askin Zigba Tayoro.
Le bateau Ikanda de l'Onatra a fait deux tours hier mercredi comme d'habitude entre Kinshasa et Brazzaville, mais sans que la grande partie des marchandises de fret à bord ne soit déchargée. Et pour cause, tous les bagagistes ont été pris au piège, leur tendu le matin au beach de Brazza par la police. Un des propriétaires de ces marchandises au port fluvial exprime son regret.
J'ai beaucoup de bagagistes qui travaillent pour mon compte là-bas. Ils sont plus de 10. Ils sont tous rentrés, raison pour laquelle les marchandises traînent ici. Il n'y a plus moyen de les expédier à Brazzaville. On les a chassés. On a dit que les bagagistes quinois n'ont plus le droit de travailler à Brazzaville.
Les bagagistes quinois n'en reviennent pas. Ils crient au mauvais traitement dont ils sont victimes.
Je suis parti le matin au beach pour travailler comme d'habitude. Nous sommes venus trouver le général Ndenge au beach. Il nous a interdit de travailler, nous les quinois. Il dit qu'il n'a besoin seulement que de ses frères. Il nous qualifie de Kuluna. Or, nous ne le sommes pas. Que tous les quinois regagnent leur pays, quoi que vous ayez ou pas le papier.
Au port fluvial de Kinshasa, la tension était perceptible suite à ces refoulements qui, selon les bagagistes quinois désappointés, devraient nécessiter l'implication du gouvernement de la RDC.
Il faut rappeler que cette opération est appelée par les autorités du Congo-Brazzaville de Mbata Yamikolo. Le gouvernement de Kinshasa se dit choqué par le refoulement et le traitement inhumain infligé à ses ressortissants par la police brazzavilloise. D'ailleurs, une délégation conduite par le vice-ministre en charge des affaires étrangères s'est rendu jeudi de la semaine dernière au pays des Sassoung Besso pour justement s'enquérir de la situation. Célestin Tundaya Kassende avait à cette occasion dénoncé des cas de torture, pillage, viol et autres traitements inhumains infligés aux Congolais de la RDC refoulés de Brazzaville. Il avait plaidé pour l'arrêt provisoire de cette opération ainsi que la mise sur pied d'une commission bipartite constituée d'experts des deux pays. Répondant à la question d'actualité du député national Patrick Muyaya à l'Assemblée nationale mercredi dernier, le vice-ministre des Affaires étrangères a affirmé que plus de 1000 personnes étaient concernées par ces opérations. Baudouin Saïlé Mbalanga, quelle lecture vous faites de cette situation de refoulement des Congolais de la RDC de Brazzaville?
Merci beaucoup, frère. Vraiment, c'est terrible, ça. Je ne sais pas comment expliquer. Au moment où nous sommes en train de faire un effort pour remettre la calmie au niveau du Grand Kivu, au niveau de la province orientale, et curieusement, c'est notre frère du Congo Brazza, même si les arcades vont venir, tente de nous déstabiliser. L'histoire dit que nous sommes les deux capitales les plus rapprochées du monde. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Il y a des nés Congo à Kinshasa, il y a des nés Congo à Brazzaville. Il y a des Bangala de part et d'autre. Mais je ne comprends pas quel est cet esprit négatif, comme a dit mon frère là, de ex-Louabour. Hein, quel est cet esprit négatif qui veut encore mettre de l'essence sur le feu pour que les deux communes ne s'entendent pas, mon frère. C'est, moi, je suis fatigué à la cité là-bas. On me dit que, papa, c'est vous qui êtes journaliste. Qu'est-ce qui se passe entre nous deux? Si nous bloquons ici le ciment qui vient de Kinshasa pour vers Brazzaville, ça sera pas bon. Le pain, le sucre, tout et tout et tout. Les gens vivent au jour le jour. À travers le deux buts de Bacater, etc. Non, je demande, il y a un abbé qui est passé par ici, et qui a proposé à ce que la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo ne fasse pas violence devant un tel cas de conscience. C'est un cas de conscience. Il faudrait que la République démocratique du Congo mène des enquêtes de concert avec l'autre côté pour qu'on trouve la voie de solution à l'africaine. Nous sommes des bantous. Même s'il y a la démocratie, nos us et coutumes sont différents des us et coutumes de l'Occident, des Américains, etc. Vous comprenez? Non, je ne veux pas qu'il y ait débordement entre les deux fleuves, sinon ça serait la catastrophe, hein, franchement.
Innocent Kabuka, là, c'est un peu trop quand même, hein, cette situation de refoulement des Congolais, pas seulement à Brazzaville, mais on voit aussi que ça se passe en Angola. Quelque part, comment est-ce qu'on peut expliquer toutes ces situations? Est-ce que la faute est aux Congolais ou bien la faute c'est de la part des autorités de ces pays qui font un peu du débordement?
Non, vous avez vous dites là beaucoup de choses à la fois, hein, mais il faut peut-être distinguer les différents cas. Mais le plus important, c'est que nous avons un gouvernement en face, et je pense le gouvernement a besoin de sécuriser tout le monde, bien sûr au niveau interne, mais aussi à l'extérieur. Savoir comment se comportent les compatriotes disséminés à travers le monde, donc les pays voisins notamment. Alors, je voudrais prendre le président Sassou Nguesso au mot. Tout ce qui se passe à Kinshasa nous intéresse ou nous concerne directement. Il le dit lorsque vous vous souvenez, il y a eu des va-et-vient des autorités de Kinshasa qui allaient à Brazzaville à la recherche. Ça, nous sommes à quelques jours seulement de l'ouverture des concertations nationales.
Je rappelle que nous sommes presque vers la fin de l'émission. Donc,
le président Sassou disait qu'il était très préoccupé par la situation dans notre pays. Je crois qu'il est encore temps, et c'est l'occasion qu'il puisse reprendre, parce que jusque-là, il ne s'est pas prononcé à ce sujet. Je pense que les deux pays, les deux capitales les plus rapprochées du monde, il ne devait pas dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe, d'autant plus que l'affaire est au niveau diplomatique. Il est très intéressé, mais s'il ne peut pas dire quelque chose, mais qu'il agisse, parce que les deux pays ont des relations très très profondes. On a besoin d'élucider à la fois l'élément à partir duquel tout ce mouvement a lieu, de sorte qu'on puisse y trouver solution de manière durable. Parce que nous sommes condamnés. Mon confrère a dit tout à l'heure, les produits qui viennent de Kinshasa, qui y traversent, et vice-versa. Alors, est-ce qu'on va mettre tout ça de côté? Il faut capitaliser. On a donc besoin que les deux pays s'asseyent autour du même table pour réfléchir et trouver les solutions les meilleures. Encore une fois de plus, vraiment, j'en appelle au président Sassou. Il avait parlé, parce que je ne peux pas ici interpeller le président Kabila, parce que lui n'a pas fait une déclaration dans le sens, et surtout que ce n'est pas son pays qui expulse les Brazzavillois, c'est plutôt les Congolais. Donc nous, Congo démocratique, nous sommes victimes de ces actions quelque peu barbares. Et quand on doit y donner même un nom assez barbare, Mbataya Mukolo, alors il faudrait que le Congo réagisse aussi avec Mbataya Tata. C'est pas possible.
Je lance franchement un appel au président Sassou Nguesso, qui est notre beau-frère. Son épouse, c'est une Congolaise, elle est de Kisangani, elle est de Basoko, c'est ma sœur. Donc ici, je m'adresse à mon beau-frère respectueusement, et j'espère que mon beau-frère est très sensible à tel appel.
Merci. Edouard Di, Innocent Kabuka, là, est déjà même en train de proposer des pistes et des solutions. Comment d'abord vous avez analysé cette situation des refoulements des Congolais de Brazzaville, et quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez proposer pour que ce genre de situation ne puisse plus se répéter à l'avenir?
Il faut répartir les responsabilités sécurité à trois niveaux, dont les Congolais eux-mêmes sont responsables, l'État congolais est responsable, et le gouvernement brazzavillois. Je pense, le gouvernement du Congo Brazzaville, je pense que Radio Capi est en train d'être suivi. Le gouvernement a aussi une partie de responsabilité comme sa population. Je veux dire aux Congolais, vous savez, quand vous voyez seulement la dénomination de cette action, Matai à Mikolo, vous avez traduit là, un coup de grand, c'est provocateur. Donc il y a quelqu'un qui est plus grand qu'un autre. Moi je pense que non. Nous sommes un État souverain, nous sommes des humains, nous sommes forts, nous sommes intelligents. On ne peut pas permettre à quelqu'un de nous dire qu'il nous donne un coup de grand comme si nous devenions ses petits. Même Goliath qui a pensé qu'il était plus fort, il a eu une tâche difficile, il en a payé pour son prix devant David qui ne représentait rien. Donc les Congolais, je suis en train de les interpeller. Aujourd'hui, je passe directement par rapport à ce qui concerne le Congo Brazza. Aujourd'hui, avec les concepts du village planétaire, où nous sommes en train d'assurer, tout le monde collabore avec tout le monde voit tout le monde parle avec tout le monde. C'est inconcevable qu'une nation considère l'autre comme vulnérable, comme moins importante. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Parce que si les Congolais étaient importants, même sur le plan des échanges, je n'en disconviens pas avec les confrères qui sont avec vous au studio, qui disent qu'il y a des produits qui traversent. Mais écoutez, si les Congo-Brazzaville avaient estimé qu'ils n'avaient pas d'autres sources pour se ravitailler en ces produits-là, ils ne se comporteraient pas de cette manière. Parce que les relations d'échange prédominent, quelle que soit la diplomatie, malgré que ça contraste un peu avec ce qu'on dit sur le plan diplomatique, avec la série des grandes assises en RDC, à Kinshasa précisément, comme les assises de Comesa, comme la francophonie, tout ça. Mais ça contraste, parce que vous avez cité la situation de l'Angola, vous avez cité la situation de Brazzaville. Si nous parcourons le monde, nous allons trouver que dans beaucoup de pays, les Congolais sont dénigrés, les Congolais n'ont pas de valeur. C'est une grande interpellation pour nous. Pourquoi on nous trouve comme des indésirables? On n'a pas besoin de nous. On trouve que nous pesons, nous bouffons trop. On n'a pas besoin de nous. Donc nous devons nous rendre importants dans les échanges. Nous devons produire. De sorte que quand nous amenons le produit rare, on en trouve l'importance. On sait que dès qu'on renvoie ces gens, on aura plus de vivre. L'État congolais, dans cette diplomatie, quelle est la politique diplomatique? Pourquoi on doit surprendre notre État? Il n'est pas notifié. Ce que l'État congolais serait en train de faire en ce moment, savoir quelles sont les causes, parce que là on cite même les Congolais qui sont chassés en situation régulière, avec leurs documents. Comment est-ce possible si on avait un peu de respect pour notre État? Ça ne pouvait pas se faire, plus que pour les gens étant en situation régulière. Moi je pense à mon avis que là le Congo Brazza s'est permis un peu de trop. Donc, contrairement à ce que dit Baudouin, nous ne pouvons pas aller vers lui comme étant notre beau-frère, mais plutôt comme un État souverain. Nous avons des droits et au nom de la collaboration, des rapports, des relations diplomatiques, il faut un peu de consultation, un peu de communication avant de mener une action.
Merci Edouard Dey, Baudouin Saïl, et nous terminons cette émission avec vous. Un petit mot en guise de conclusion.
Je demande à tout le pays africain qui entoure la RDC d'être des bons citoyens, d'être des responsables africains avec une cohabitation pacifique de part et d'autre. Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, nous sommes tous Bandekouya Kolomoko.
C'est avec vous que nous terminons cette émission. Baudouin Saïl Mbalanga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Chopo, un journal qui paraît à Kinshasa. Dans cette émission, je recevais aussi Innocent Kaboukala, journaliste à Global Télévision, une télévision émettant aussi depuis Kinshasa, et Edouard Dey, journaliste, reporter et directeur de la station de radio-télévision Kasaï Horizon émettant depuis Kananga. La partie technique de cette émission était assurée par Héritier Sidiakala. Alain Rung était à la réalisation. Samuel Kachak vous l'a présenté sous la supervision de Pelé Kipelamondo. La rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.